réplique, le choix des détails, avec Marcel Cohen et André Dussolier.
En 1943, le sculpteur américain Alexandre Calder et sa femme sonnent à la porte du docteur Petiot, 21 rue Le Sueur, dans le 16e arrondissement de Paris. Madame Calder est médecin. Elle est aussi américaine et juive. Deux raisons de quitter Paris occupé. Grâce à ses relations, Petiot se fait fort de procurer au couple de faux passeports et un passage pour l'Amérique du Sud. Comme aux autres candidats au départ, il conseille de coudre devises et bijoux dans la doublure des vêtements et de n'emporter qu'un léger bagage. Aujourd'hui, le couple n'aura qu'à se présenter à son cabinet. Petiot se chargera du reste. C'est alors que Petiot s'absente pour aller chercher les formulaires que devra remplir le couple. Madame Calder en profite pour se lever d'un bond. « Fuyons, au plus vite !» murmura-t-elle à son mari qui n'en voit pas l'utilité. Tout ne se présente-t-il pas pour le mieux ? Sur le trottoir, elle rappelle à son mari que Petiot se prétend chirurgien. Alexandre a-t-il fait attention à ses ongles ? Ils sont noirs de crasse. Jamais un chirurgien ne se négligerait à ce point, même s'il n'exerçait plus, explique-t-elle. À cette date, 27 personnes, toutes candidates au départ, avaient été dépouillées de leurs biens dissimulés dans leurs vêtements. Les victimes avaient été préalablement assassinées dans le cabinet de la rue Le Sueur et incinérées par le prétendu chirurgien dans son poêle à charbon. Le 21 septembre 1938, un habitant de West Hampton Beach, dans le Rhode Island, reçoit par la poste un baromètre commandé par correspondance à la firme new-yorkaise Abercrombie & Fitch. Le baromètre est bloqué sur l'indication « ouragan ». Et comme il fait beau et que l'aiguille refuse de bouger lorsqu'il tapote l'appareil, l'acheteur en déduit que celui-ci est défectueux. Il écrit une lettre pour se plaindre et va la poster. Lorsqu'il revient, sa maison a disparu, emportée par l'ouragan que signalait le baromètre.
Les deux textes, merveilleusement lus par André Dussolier, sont extraits du dernier livre de Marcel Cohen, « Détails ». Et en effet, il n'y a dans cette œuvre que des détails, des fragments, des anecdotes, des pièces brèves, des petites histoires telles quelles, sans commentaires. Pourquoi ce choix, Marcel Cohen ? Quel sens esthétique et peut-être éthique faut-il lui donner ?
Esthétique et éthique, oui, certes. Mais dans le choix du titre, et dans le choix de l'organisation même, il y a aussi un peu d'ironie qu'on trouve dans la phrase que j'ai placée en exergue de Kafka. Elle est extraite de « Description d'un combat ». Deux personnages marchent dans la rue et l'un dit à l'autre « Finissons-en avec tous ces détails, c'est le tout que je brûle de connaître ». Alors, j'ai pensé que effectivement, c'était un bon point de départ de ne parler que des détails et pas de l'essentiel, et pas du tout, qui est évidemment inaccessible et souvent même un peu ridicule de la part de bien des romanciers, enfin quand ils s'y attachent.
Mais d'un autre côté, Marcel Cohen, vous ne perdez pas de vue le tout. C'est-à-dire que si l'on voulait donner le nom d'une figure rhétorique à votre entreprise, on ne choisirait pas la métaphore, cette comparaison abrégée que vous fuyez, je crois, mais la métonymie, ou cette variété de la métonymie, cette espèce de métonymie qui est la synecdote, c'est-à-dire on désigne le tout par la partie, l'ensemble par l'un de ses éléments, parce que chaque... On peut dire qu'un certain nombre d'histoires renvoient à quelque chose. Mais vous avez le sentiment qu'on ne peut atteindre ce quelque chose, cette totalité, que précisément par les détails ou par les fragments, Marcel Cohen.
Oui, parce que ça permet deux choses. Ça permet d'éviter le pathos, qui est le pire ennemi de l'écrivain, en tout cas mon pire ennemi. Et, comment dire, ça permet aussi au lecteur de faire sien le livre, de s'engouffrer dans les blancs du livre et de s'approprier les textes, de leur faire dire quelque chose, car mes livres, vous le savez, n'ont aucun sens. D'une part, on ne peut pas les résumer, et d'autre part, je serais bien incapable de dire ce qu'ils veulent dire, ils ne veulent rien dire. Dans un roman classique, il y a toujours un sens. Ça veut toujours dire quelque chose. Un récit veut toujours dire quelque chose.
Oui, alors, nous reviendrons au roman, oui, oui. Et à votre polémique avec le roman. Fait 3 est précédé d'un exergue de Maurice Blanchot, d'une exergue de Maurice Blanchot. Je dus reconnaître que je n'étais pas capable de former un récit avec ces événements. J'avais perdu le sens de l'histoire. Cela arrive dans bien des maladies. Vous avez perdu le sens de l'histoire. Je ne crois pas que chez vous ce soit le signe d'une maladie, mais peut-être d'une autre forme de lucidité ou d'exigence de lucidité. Mais André Dusselier, qu'est-ce qui vous a fait choisir ces deux textes-là?
Oh, il y a de nombreux
On en
textes,
a d'autres là, d'ailleurs oui, qu'on va lire, mais ces deux-là, quels sont? Qu'est-ce qui vous a
C'est ce que dit Marcel Cohen, c'est-à-dire que c'est une concision. On a l'impression, quand on est lecteur, et même quand on est comédien et interprète, d'avoir une liberté, mais surtout quand on est auditeur ou bien lecteur, de pouvoir s'approprier l'histoire, vraiment, grâce à la concision, grâce au fait que l'auteur ne se laisse pas aller aux commentaires ou bien aux sentiments, c'est-à-dire qu'il ne se met pas en avant, mais il nous laisse, nous, lecteurs, à nous, lecteurs, la possibilité d'être émus. Alors c'est un savant dosage de la part de l'auteur, parce que c'est évidemment la flèche, quand on l'envoie comme ça au cœur de la cible, il faut savoir bien tenir l'arc et bien voilà, il faut avoir une grande maîtrise, et c'est peut-être cette maîtrise qui fait que l'émotion qui parvient au lecteur est la plus grande, ou bien l'amusement ou le clin d'œil, comme il peut y avoir dans l'histoire du baromètre ou bien d'autres histoires. Moi, c'est la concision, c'est l'ellipse, enfin tout ce qu'a dit Marcel Cohen précédemment, qui me plaît quand je suis lecteur de ces textes.
Revenons une seconde à l'histoire de Calder et du docteur Petiot. C'est une des anecdotes, dites-vous, Marcel Cohen, qui illustre le dicton « Le diable est dans les détails » et son contraire « Dieu est dans les détails ». Puisque le premier est attribué à Nietzsche et le second est une interprétation d'une des sections de la Bible lue intégralement chaque année dans les synagogues. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que le couple Calder est sauvé par l'attention de la femme aux détails. Donc il y a quelque chose, occupez-vous des détails, il y a quand même un message, c'est-à-dire elle perçoit ce que son mari n'avait pas vu, c'est-à-dire que les ongles du docteur sont sales alors qu'il se prétend chirurgien et qu'en effet un chirurgien est réputé pour sa propreté et il se lave tout le temps les mains. Donc il y a aussi ça quand même dans ce texte.
Oui, dans ce texte, on...
Marcel Cohen.
On pourrait estimer que Dieu et le diable interviennent
voilà,
simultanément. Voilà, tous les deux. Ces dictons contradictoires m'ont beaucoup incité aussi à entreprendre ce livre. La paracha Mishpatim, mm-hmm. Qui est une section de la Bible, qui est lue intégralement, vous le savez, chaque année. Alors, dans la paracha Mishpatim, il y a quelque chose qui est très étonnant, Dieu vient dans l'Exode, Dieu vient de donner les 10 commandements. Et aussitôt après, ce n'est pas suffisant pour lui, il en donne 23 supplémentaires. Bien. Et alors, l'interprétation rabbinique est très savante, c'est que les 10 commandements sont beaucoup trop généraux pour être applicables. Alors, dans les commandements qui suivent immédiatement, vous avez par exemple... Si vous creusez un puits et que ma vache tombe dans votre puits, qui est responsable? Vous, parce que vous n'avez pas protégé votre puits, ou moi, parce que je n'ai pas surveillé ma vache? Donc on est immédiatement dans le code civil. Là. Donc c'est vraiment le détail, je crois vraiment que c'est quelque chose de fondamental.
Et c'est fondamental voilà. D'ailleurs dans l'écriture talmudique, telle que d'ailleurs nous la présente Lévinas quand il dit que le Talmud est une casuistique infinie et que c'est la surveillance du général par le particulier. Car le général laissé à lui seul, ça peut être extrêmement dangereux. Mais je voudrais, avant qu'André Dusselier ne nous lise un autre texte, que vous nous expliquiez, Marcel Cohen, votre querelle avec le roman. C'est-à-dire, vous choisissez le détail un peu contre le roman dont vous dites que, au fond, c'est une forme périmée. Et d'ailleurs, dans un autre livre qui est constitué de citations, qui s'intitule « Autoportrait en lecteur », collection de citations disparates, eh bien, il y en a une de Canetti qui est très claire. On ne pouvait plus représenter le monde de la même manière que dans les romans de jadis. Le monde se décomposait, et il n'était plus possible d'en donner une représentation véritable que lorsqu'on avait le courage de le montrer dans sa décomposition. Marcel Cohen.
Alors, oui, la querelle, le roman est-il encore possible? C'est une vieille querelle. Je crois que le premier écrivain à avoir annoncé la mort du roman, c'est Mandelstam, dans un texte sur la poésie, mais il consacre un petit chapitre au roman pour dire que le roman est obsolète. On pourrait déjà, en 1922, alors on pourrait multiplier les exemples presque sans fin. Je voudrais, si vous le voulez bien, vous lire une citation de Max Frisch, qui est le mari d'Ingeborg Bachmann, la fameuse écrivaine autrichienne. Alors, il dit, Max Frisch, et assez drôlement, « Les romans ne conviennent pas du tout. On y parle de gens dans leur rapport à eux-mêmes et aux autres, de père et de mère et de filles ou de fils, et de leurs amours, etc. D'âmes, principalement malheureuses, et de la société, etc. Comme si, pour tout cela, le terrain était assuré, une fois pour toutes, la terre, une fois pour toutes, la terre, la hauteur du niveau de la mer réglée, une fois pour toutes, etc. » Assez drôlement, Gertrude Stein faisait sensiblement dans les années 20 la même remarque, elle aussi, et aussi drôlement. Je ne vais pas vous le lire, mais Milan Kundera a fait...
Romancier au demeurant.
Voilà, Milan Kundera a fait une remarque tout à fait bouleversante dans l'art du roman. Il compare Proust et Kafka, qui sont deux exacts contemporains, puisque l'un est mort en 22 et l'autre en 24, si je ne me trompe pas. Or, Kundera remarque que pour un héros proustien, avoir des tendances homosexuelles, par exemple, ça conditionne toute sa vie, alors que pour un héros kafkaïen, ça n'a plus aucune importance. On ne connaît même pas son nom, souvent. Et dans le château, on n'est pas tout à fait sûr non plus que le héros soit arpenteur. Bref, en d'autres termes, notre destin individuel n'est plus entre nos mains. C'est ce que Kundera remarque avec beaucoup de perspicacité. Qu'est-ce que ça voulait dire pour un combattant de Verdun, 700 000 morts, d'avoir des tendances homosexuelles? C'est ridicule. Qu'est-ce que ça voulait dire pour les 6 millions de morts de la Shoah, d'être ceci ou cela? Les riches, les pauvres, les intellectuels et les manuels ont tous eu, ont tous vu leur destin se résumer au seul mot de juif.
Mais Kafka et Kundera sont des romanciers, et des romanciers extraordinaires. Alors laissez-moi faire, avant qu'André Dusselier ne nous lise un autre texte, un petit plaidoyer pour le roman, très bref. À un moment où la musique savante décourage même les mélomanes les plus avertis, et où les jouets criards ou les performances de l'art contemporain marginalisent impitoyablement les peintres obstinés, on peut constater quand même aujourd'hui une extraordinaire vitalité de la forme romanesque. Guy Scarpetta a écrit un livre, L'âge d'or du roman, très beau livre demeurant, avec des analyses des œuvres de Kenzaburo Oe, de Danilo Kish, de Salam Rushdie, de Claude Simon, de Mario Vargas Llosa, et de Kundera, et de Philippe Roth. Et puis, on peut citer en France Michel Houellebecq, Pierre Michon, et aussi Alice Vernet, que j'ai invité il y a quelques mois, et qui, sur la bourgeoisie, nous dit, cette classe expérante, nous dit des choses que seul le roman peut dire. Et j'en terminerai avec une citation de Gide, Cela fait une grande différence pour l'écrivain que de contempler le général dans le particulier ou d'y chercher le particulier afin de l'assortir au général. Alors certains romans procèdent de cette deuxième manière. Ces romans d'ailleurs que vous critiquez en disant il y a des romans maintenant sur l'homophobie, sur les violences sexuelles, sur le racisme, sur les banlieues difficiles. Mais dans ces romans-là, si vous voulez, les personnages deviennent des échantillons. Donc ils n'accomplissent pas la vocation du roman, ils trahissent l'esprit du roman. Voilà, voilà ce que j'aurais à dire. Et il y a dans le roman le même pari que vous, le pari sur la synecdote, c'est-à-dire c'est sur la cime du particulier, pour parler comme Proust, qu'éclot le général. Donc je pense que vous relevez, vous et les grands romanciers, de la même ontologie, Marcel Cohen.
Oui, alors si vous permettez une expression un peu vulgaire, je voudrais rabattre un peu mon caquet sur le roman. Je ne veux pas passer pour un esprit dogmatique, je ne suis pas un inquisiteur, je n'interdis pas le roman, etc. Tout ça, c'est ridicule. Simplement, ça ne me convient pas, parce que, pour bien des raisons, j'appartiens à une génération qui n'a rien à dire. Vous citiez Blanchot tout à l'heure, que je cite moi-même dans l'un de mes livres. J'appartiens à une génération qui est née juste avant-guerre. J'avais 2 ans en 1939. Tout ce que je sais sur la guerre, sur la Shoah, je l'ai lu dans les livres. Ça ne me donne aucune autorité pour parler des événements, pour parler du passé. Donc, et comment pourrais-je taire aussi ce passé. Donc je ne peux ni en parler, ni le taire tout à fait. Autrement dit, je n'ai rien à dire. Je crois que beaucoup d'écrivains de ma génération sont dans ce cas. Et sur la vitalité du roman que vous évoquiez, il y a là aussi beaucoup à dire. Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature 2006, expliquait qu'on n'a jamais écrit autant de romans, non seulement en Europe, mais hors de l'Europe. C'est un mode d'expression qui se répand bien au-delà des frontières de l'Europe. Bon, alors c'est un petit peu quand même un petit peu suspect, n'est-ce pas? Si on peut penser qu'un roman dit toujours quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas un moyen aussi de fuir un peu la réalité en lui donnant un sens? Les grands romans du 19e siècle nous ouvrent les yeux. Est-ce que beaucoup de romans du 21e siècle ne nous les ferment pas?
Un certain nombre d'entre eux, mais je dirais pas tous. Et peut-être que trop de romans tuent le roman. Mais André Dusselier, vous avez parlé de votre expérience, de la génération à laquelle vous appartenez, et en tout cas, le XXe siècle, dans ce qu'il peut avoir de plus douloureux, est très présent dans Détail, ainsi que dans Fait 1, Fait 2 et Fait 3. Et je demanderai cette fois-ci à André Dusselier peut-être de lire un texte qui nous a bouleversé l'un et l'autre, sur la guerre de 14.
Pour des cartes postales.
Il est un peu plus long, mais il est extraordinaire.
Une femme se souvient comment, jeune fille, on ne manquait pas une occasion de lui rappeler l'étrange comportement de sa grand-mère pendant la Première Guerre mondiale. À la ferme, lorsqu'elle recevait des nouvelles de son mari, et contrairement à toutes les femmes de soldats, la jeune épouse, elle était mariée depuis 2 ans à peine, commençait par poser le courrier sur la grande table de la cuisine. Elle s'asseyait alors sur la première chaise, avant de sortir son chapelet de sa poche de tablier. Elle le passait autour de son poignet et priait, sans quitter la lettre des yeux. On n'entendait plus que les mouches, le tic-tac de la petite horloge noire au-dessus des chaises et un chuintement de lèvres. Quand la femme se dirigeait vers la table, c'était sans hâte, et avec un soupir. Pour elle, l'important n'était pas du tout ce que dirait la lettre. Moins encore la carte postale reconnaissable au petit drapeau tricolore de la poste aux armées. Elle savait que la carte avait été rédigée à la hâte dans les tranchées. Et il se passait plusieurs semaines, parfois beaucoup plus, entre la collecte du courrier par le vague-mestre et la remise au destinataire. Quelle qu'en soit la teneur, le courrier ne prouvait donc rien. À cet égard, les longues lettres étaient de beaucoup les plus fallacieuses. N'était-elle pas toujours rédigée à l'arrière quand le régiment était au repos? Le pire était donc à venir. Et c'est la confiance sans mesure des soldats qui faisait le plus mal. Croyaient-ils vraiment à ce qu'ils affirmaient avec tant d'assurance? Quand ils envoyaient des photos, on les voyait qui riaient avec leurs camarades, la pipe aux lèvres, levant au cœur leur quart d'aluminium, le petit chien servant de mascotte à la compagnie allongé à leurs pieds. À la santé de qui traquaient-ils ainsi? Dans un coin de la photo, il était rare qu'on n'aperçût pas le linge qui séchait sur une corde et pendu à son trépied le chaudron d'eau chaude destiné à laver les gamelles. À l'arrière, les femmes de soldats paraissaient à tous égards beaucoup plus avisées. En 2 ans, la jeune femme, en tout cas, avait entendu trop de voisines se réjouir de ce qu'un père, un mari ou un fils étaient en bonne santé, au moment même où les gendarmes, parfois le maire, posaient leur bicyclette dans la cour de la ferme pour annoncer sa mort. Le facteur lui-même se disait honteux de devoir remettre tout un paquet de lettres à une famille en deuil depuis des mois. Dans ses prières, comment être certain que la jeune femme n'implorait pas le ciel d'accorder à son mari la grâce d'une blessure, voire une amputation pure et simple, plutôt que d'apprendre une fois encore qu'il était en excellente santé et comme tous ses camarades qu'il avait un excellent moral? Dans ses lettres, elle cachait à peine sa jalousie lorsqu'elle apprenait qu'un ami de son mari avait été évacué et qu'il était soigné dans un hôpital de l'arrière. « Sans doute lui faudrait-il beaucoup de repos », expliquait-elle, « mais du moins avait-il la chance d'être intact », selon sa propre expression. Les choses arrivèrent exactement comme la jeune femme le redoutait. En août 1916, le maire venait de lui remettre une convocation, l'invitant à se présenter sans tarder à l'état-major du régiment à Verdun, afin de reconnaître le corps de son mari, quand elle reçut une carte postale. Ce ne fut pas la dernière. Et dans celle-ci, comme dans les suivantes, elle ne fut pas étonnée d'apprendre que le moral était au beau fixe. La jeune femme revint au village avec, dans le fourgon du train, un cercueil en bois blanc et un corps dont seule la couleur des cheveux rappelait son mari. Des années durant, elle expliqua que c'est pour ne pas importuner inutilement le médecin-major qu'elle avait accepté de reconnaître ce corps plutôt qu'un autre.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce texte, André Dussolier?
Ah ben voilà, c'est l'émotion qui s'en dégage avec simplement une économie incroyable dans l'écriture, dans la manière de voilà. Et on parlait tout à l'heure du détail qui dit tout. C'est vrai que je peux pas m'empêcher de penser et de faire des allégories avec le cinéma. Vous savez, de gros plans comme ça et quand la caméra s'éloigne, on voit la vue d'ensemble. Mais le gros plan dit raconte beaucoup. J'ai joué même une pièce de théâtre de Nathalie Sarraute où tout d'un coup sur une expression, c'est une pièce qui s'appelle Pour un oui ou pour un nom, et il y a un des personnages qui dit « Ah, tu m'as dit un jour, c'est bien ça ». Et juste à partir de cette expression, on a l'impression que ces deux clans qui s'opposent, quoi. Et donc, c'est le détail qui dit tout, quoi, qui dit beaucoup de choses, qui raconte tout un univers, une société, et même la guerre, quoi, l'attente de ces femmes qui ne se font pas d'illusions.
Oui, vous n'avez pas abandonné le tout, d'une certaine manière, parce que c'est le détail, comme dit André Dussolier, qui dit tout, Marcel Cohen.
Alors, le détail, oui, si on l'interroge, si on s'arrête, si on creuse un petit peu ce qu'on vient de lire, si on intervient dans les marges, effectivement, le détail dit tout. Mais vous savez, c'est assez curieux. Le Wittgenstein, le logicien du langage, dit cette chose, termine son fameux Tractatus par une phrase qui est très déconcertante, surtout pour un écrivain. Il dit « Ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire ». Alors on se dit « Mais c'est toute la littérature qu'il condamne, là ». En réalité, pas tout à fait, parce que il faut pas dire l'essentiel, mais on peut tourner autour de l'essentiel. Et on peut essayer de je ne sais pas, c'est un mot un peu prétentieux, mais essayer de créer des petites fulgurances dans un livre, et puis laisser le lecteur se débrouiller avec tout ça. Je pense qu'effectivement, c'est le lecteur qui écrit le livre. C'est très prétentieux de penser qu'un écrivain écrit un livre, et puis, à mon sens, il doit écrire le moins possible. Mais un auteur n'a aucun recours contre le lecteur. De toute façon, c'est lui qui referme le livre, c'est lui qui s'en fait une idée, à tort ou à raison. Donc c'est lui qui écrit le livre. Vis-à-vis de si on prend le point de vue de l'auteur, alors il cherche autre chose et on arrive à un point de vue éthique que je pense vous avez en tête.
Oui.
C'est que si on évite le pathos, on évite. Il faut se méfier. Hein. Je pense que les écrivains sont des gens qui d'abord se méfient de la littérature. Ce ne sont pas des gens qui ont choisi d'écrire ceci ou cela. Ce sont des gens qui, pour rien au monde, ne voudraient écrire ceci et certainement pas de telle ou telle manière. Bon. Donc il reste un certain nombre de petites possibilités qu'explorent les écrivains. Et dans mon cas, le choix d'intervenir le moins possible dans mes livres, d'être aussi, autant que possible absent, c'est évidemment un choix.
Alors, le lecteur écrit le livre, mais le lecteur, Marcel Cohen, veut être fidèle à l'auteur. Il ne veut pas faire un mauvais usage de sa liberté, parce qu'après tout, l'auteur s'en remet à lui. Et au lecteur, d'être à la hauteur. Et en effet, vous êtes très discret. Mais il y a des leitmotifs dans vos différents ouvrages, fait 1, 2 et 3, et détails. Et un des leitmotifs liés à votre biographie, c'est évidemment la Shoah. Et moi, je voudrais lire un tout petit texte du juriste Joseph Bohr, qui était interné au camp de Theresienstadt, Thérésine en Tchèque, de 1942 à 1944, avant d'être transféré à Auschwitz. Ce juriste nous apprend ceci. Par arrêté spécial, les autorités du Reich, avaient ordonné d'expédier à Thérésine tous les biens confisqués aux Juifs et dont on ne savait que faire. C'est ainsi que s'entassèrent dans le ghetto les objets les plus hétéroclites. Des corbillards, des livres de prière, des mannequins de couturière, des filets à moustache et autres découvertes invraisemblables. Un jour, un train arriva avec un wagon rempli de chapeaux hauts de forme. Joseph Bohr note « Tous les Juifs qui se trouvaient là durent s'en affubler sous peine de mort. On organisa même, sur ordre des SS et pour leur plus grande joie, une partie de football avec les chapeaux en guise de ballon. Une autre fois, les SS exigèrent que des détenus chantent en chœur, affublés des hauts de forme. » Et là, j'ai lu ce texte et j'ai pensé à une réflexion de Blanchot dans l'écriture du désastre, écriture fragmentaire d'ailleurs. Nous lisons les livres sur Auschwitz. Le vœu de tous, là-bas, le dernier vœu. Sachez ce qui s'est passé, n'oubliez pas, et en même temps, jamais vous ne saurez. Et ce détail, il y en a d'autres, hein, de livre en livre, d'une certaine manière, comble notre désir de savoir, parce que ça, nous ne le savions pas, et il nous fait comprendre que jamais nous ne saurons, du fait de ce que ceci peut à la fois, cette anecdote peut avoir à la fois d'horrible et de grotesque. Marcel Cohen. Donc là, il y a peut-être qu'en effet, c'est par les fragments et les anecdotes que nous touchons quelque chose que les récits globaux ne nous permettent pas toujours d'appréhender. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, bien sûr. Le livre que vous citez de Blanchot va même plus loin. Blanchot va même plus loin puisqu'il dit il y a un point de la douleur humaine où l'exercice d'un art devient une insulte à cette douleur. Je pense donc qu'on ne peut pas aborder ces sujets sans beaucoup de modestie. Mais vous savez, c'est précisément l'utilité du détail. Primo Levi, par exemple, parle d'un capot qui, un jour, s'est essuyé les mains pleines de cambouis sur ses épaules. Et Primo Levi disait il faudrait lui faire un procès, mais on ne peut pas faire un procès à quelqu'un qui vient simplement de s'essuyer les mains sur votre dos. Et pourtant, c'est gravissime, car vous êtes nié en tant qu'individu, en tant qu'homme. On vous considère comme un chiffon. Voilà un détail qui est impardonnable et qui révèle l'essence même des camps, qui n'est pas seulement la mort, puisque Primo Levi parle de camps de travail, il ne parle pas des camps de la mort. mais de cette...
Non, il parle aussi des camps de la mort, puisqu'il est à Auschwitz.
Oui, oui, mais... Enfin, oui. Mais il parle, il travaillait.
Oui, il travaillait.
Il n'a pas été sélectionné pour...
Il n'a pas été sélectionné, effectivement.
Bien sûr. Oui, oui. Bon. Il y a bien d'autres détails, si vous voulez, qui montrent l'horreur absolue et qu'on ne pourrait pas dire.
Mais alors, l'horreur est donc présente à travers ces détails dans vos livres, mais il ne faut pas croire qu'elle soit seule présente. Chez vous, la mélancolie voisine avec la facétie. Par exemple, d'abord dans votre livre de citation, Autoportrait en lecteur, vous livrez cette phrase de Galinsky, le rabbin de la communauté juive de Berlin. C'est l'inhumanité qui a dû capituler en 1945, l'humanité, elle, avait déjà déposé les armes en 1933. Mais dans le même livre, vous avez ceci de Mae West. Dans ma vie, je n'ai jamais aimé que deux catégories d'hommes, ceux qui ont des moustaches et ceux qui n'en ont pas. Phrase qui fait évidemment éclater de rire. Et puis, une autre phrase, un maxime de Oden, dans un livre qui s'appelle Shorts, des détails d'Oden, si on peut dire, que je trouve absolument délicieuse. Parmi les mammifères, seul l'homme a des oreilles qui n'expriment aucune émotion. Voilà. Donc, mais justement, alors je voudrais que ce versant, nous l'explorions un peu, ce versant léger, facétieux, et puis aussi une certaine idée des détails qui peuvent être la touche, la petite touche qui fait la différence. Et André Dussolli, nous avons sélectionné ensemble le passage sur César Ritz.
Ah oui, oui. César Ritz, fondateur en 1898 à Paris du palace du même nom, fut toujours un grand maniaque. Il ne cessait de répéter que rien n'était plus sérieux qu'un détail. Il exigeait que les clients soient appelés par leur nom dès leur arrivée, y compris par les femmes de chambre, ce qui supposait un effort de mémoire considérable. Seul le jaune champagne était toléré pour la literie, les doubles rideaux, la soie des revêtements muraux, les nappes, les serviettes. C'est la seule couleur qui, aux yeux de Ritz, met en valeur le teint d'une femme. Jusqu'au milieu des années 1990, on trouvait encore dans les penderies, fait unique dans le monde, un tiroir destiné aux perruques. On remarquait aussi les pendules à air comprimé. Elles avaient été conçues à la demande de Ritz pour indiquer la même heure dans tout l'établissement des cuisines à la suite impériale. D'origine suisse, Ritz ne supportait pas l'inexactitude. Le jour de l'inauguration, Ritz fit revenir les menuisiers à moins de 3 heures de l'arrivée des premiers invités. Il trouvait les tables du restaurant trop hautes d'1,5 cm. Il en profita pour faire visser un crochet au montant des chaises afin que les femmes puissent y suspendre leur sac à main. On comprend que son nom ait donné aux États-Unis l'adjectif « ritzy », synonyme de luxe, de confort et de bon goût. Il n'est pas anormal non plus que certains touristes américains soient déçus en apprenant qu'au sommet de la colonne Vendôme, face à l'entrée de l'hôtel, la statue n'est pas celle de César Ritz, mais de Napoléon.
Alors, qu'est-ce que vous aimez dans cet Alexandre Ritz?
Bon, ben, voilà, c'est la chute aussi, peut-être, aussi, cette manière de nous emmener sur le détail ou le comportement de quelqu'un ou la manière crie de quelqu'un. Et puis ensuite, il y a une manière aussi de nous emmener vers un clin d'œil, quoi, qui raconte aussi ce qu'on aime chez quelqu'un et ce qui peut provoquer aussi, je sais pas, la folie, quand on parle de la colonne Vendôme ou l'ironie. Bon, voilà, il y a tellement de textes aussi, il y a absolument aussi un... Mais il y a un texte aussi très court sur les détails, mais il y en a tellement aussi. Mais sur Usain... Non, mais c'est très court, hein. Mais lorsque le 18 août 2008, Usain Bolt, aux Jeux Olympiques de Pékin, remporte son 100 mètres historique, battant le record du monde en 9 secondes 69, soit 41 foulées d'une moyenne de 2 mètres 44, le lacet de sa chaussure gauche était dénoué. Usain Bolt avait donc autant de chances de battre ce record que de réaliser une contre-performance en raison de son déséquilibre. Il avait même beaucoup de chances de ne pas arriver du tout pour cause de chute.
Mais il y a plein d'autres textes. C'est merveilleux, mais pour revenir à Ritz, cet homme avait la folie du détail, et c'est une folie merveilleuse. C'est-à-dire que c'est le luxe suprême, hein, qu'on ne trouve plus nécessairement, d'ailleurs, dans les grands hôtels plus formatés d'aujourd'hui. Donc on a un peu de nostalgie aussi envers cet artiste du luxe. Et puis Usain Bolt et sa chaussure, en effet, Marcel Cohen.
Alors, j'ai eu la chance, en tant que journaliste, de pouvoir faire la première histoire du Ritz. Alors, j'ai passé beaucoup de temps au Ritz, dans les années 90. Oui. Je gagnais ma vie comme journaliste. Donc,
vous
j'ai proposé le Ritz.
Vous étiez journaliste à quel journal ?
Ah, ça m'ennuie un peu de vous le dire, parce que je me suis toujours fâché à la fin.
Ah bon ?
J'ai travaillé longtemps pour les mêmes journaux, mais j'ai toujours fini par me fâcher avec eux. Donc, je ne veux pas faire de publicité pour ces journaux, mais en tout cas...
Nous ne saurons pas.
J'étais payé pour faire une histoire du Ritz. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, à la folie de César Ritz, c'est vrai qu'il y a une forme de folie. Il y a, comment dire, mais alors, c'était, par exemple, on ne peut pas dans un palace faire fi des détails. Par exemple, le prix de l'Arc de le jour de le prix de l'Arc de Triomphe, les femmes peuvent porter des robes en tulle et une capeline. Mais les robes en tulle arrivent froissées. Donc le Ritz a toujours eu l'habitude d'avoir des repasseuses à domicile capables, la veille du prix de l'Arc de Triomphe, de repasser 60 robes en tulle dans la nuit. Pendant la nuit, il faut qu'elles soient prêtes très tôt le matin. Donc tous ces petits détails sont tout à fait remarquables. Le Ritz était aussi le seul hôtel où un chasseur notait le numéro du taxi dont vous descendiez et le nombre de bagages que vous aviez à la main. Donc on pouvait vous dire immédiatement, monsieur Finkielkraut, non, vous n'aviez que 3 bagages. Si vous, votre serviette, vous avez dû l'oublier à Roissy.
Alors, on ne l'a jamais dit, mais est-ce qu'ils le disent encore?
Alors je ne sais pas, il vient de rouvrir, et je n'ai pas mis les pieds au risque, bien sûr, depuis sa réouverture.
Alors il y a cet autre texte aussi auquel nous avons pensé, André Dussolier, ce qui se passe dans une voiture.
Ah, oui.
C'est à cela que vous pensiez?
Mais oui, c'était à ça que je pensais.
Alors,
en effet, en même temps, j'ai envie de poser une question, parce que...
Vas-y.
Ce que Marcel Cohen vient de le dire, c'est-à-dire qu'il était journaliste, donc à chaque fois, quelles étaient les sources de ces récits, de ces histoires? Est-ce que c'était grâce au journalisme comme ça, ou est-ce que c'est en puisant ici ou là? Parce que là, par exemple, le texte auquel Alain Finkielkraut fait allusion, c'est une psychologue qui consacre une étude à l'influence de l'automobile sur l'intimité des couples, et je me demandais... On va le lire, mais où est-ce que vous aviez trouvé ces informations? Oui, parce que elles sont rares et spécifiques, et en même temps vous en faites comme une petite page de nouvelles, quoi, extraordinaire.
Alors elles sont tout à fait exactes. Je les ai lues sous la plume d'un sociologue américain. Les Américains font un beaucoup plus grand usage de la voiture que nous. Parce qu'ils sont obligés, vu la vastitude du pays, des villes, etc., tentaculaires, etc. Et donc, généralement, les déclarations d'amour se font dans les voitures. La décision de rompre se fait aussi dans une voiture. Les choses importantes se disent dans les voitures aux États-Unis. Alors, bon, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit... aussi exact en France, mais je pense que oui.
Ah oui, je me suis bien reconnu, voilà. En tout cas dans le texte, parce qu'en effet, ou en tout cas, des histoires semblables sont arrivées à des amis. Une psychologue consacre, alors donc le texte commence comme ça, une psychologue consacre une étude à l'influence de l'automobile sur l'intimité des couples. La psychologue fait valoir que la promiscuité, la coupure avec le monde extérieur, l'impossibilité de toute intrusion, le choix du lieu, favorisent les confidences. C'est si vrai, estime-t-elle, que dans plusieurs pays, et plus particulièrement aux USA, bien des hommes seraient incapables de déclarer leur flamme sans avoir un volant entre les mains. Compte tenu de la timidité de nombreux hommes, l'obligation de regarder la route, et non leur compagne, a une importance décisive. Assise à la droite du chauffeur et à portée de sa main, mais sans que la passagère puisse le toucher en retour sous peine de risquer un accident, cette dernière se trouve dans une situation de passivité et de vulnérabilité très grande. Comment s'étonner si l'automobile favorise aussi les scènes de rupture et l'aveu des liaisons extra-conjugales? La psychologue s'arrête longuement sur cette incidence, notant que la passagère est dans l'impossibilité pure et simple de gifler le chauffeur, un détail qui a son importance. De même, qu'elle le veuille ou non, elle est tenue d'écouter l'intégralité du discours de son compagnon, faute de pouvoir quitter le véhicule, ce qui équivaut à être prise en otage. Compte tenu de l'âge de la passagère et de la durée de sa relation avec le conducteur, les témoignages permettent d'établir une typologie des routes, autoroutes et paysages sur lesquels une femme a le plus de chances de se voir annoncer une nouvelle désagréable. En règle générale, note l'auteur, plus la liaison ou le mariage sont anciens, plus le conducteur a besoin de temps pour structurer son discours. C'est pourquoi on voit nombre de jeunes couples mettre fin à une liaison en ville et en plein trafic, l'homme se moquant éperdument de voir sa compagne s'éclipser à la faveur d'un feu rouge. Il arrive même qu'il provoque cette fuite par une violence verbale calculée. Chez les couples plus âgés, la situation est inverse. L'homme choisit presque toujours une route dégagée ou une autoroute permettant une vitesse élevée sans exiger pour autant une attention excessive. Ne pas avoir à affronter le regard de la partenaire, cette fois encore, lève une bonne part d'inhibition et la vitesse sert d'alibi. Innombrables sont ainsi les femmes qui se sont vues annoncer une demande de divorce au retour des vacances sur une autoroute droite à 140 km à l'heure, alors que leur compagnon s'était montré très attentionné les jours précédents. La psychologue note d'ailleurs une expression récurrente chez nombre de conducteurs lorsqu'ils en viennent à évoquer une séparation. « Oh, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi pendant ces vacances. »
J'adore ce texte. Il me semble, d'abord, c'est son humour extraordinaire, cette façon de regarder les situations les plus tragiques. Qu'y a-t-il de plus tragique dans la vie humaine, mis à part évidemment les événements historiques, qu'une rupture? On regarde ça par le petit bout de la lorgnette, donc l'humour est très présent, la prose aussi. Et ça d'ailleurs, ça me semble tout à fait conforme à l'esprit du roman, mais nous arrêtons là notre querelle. Quelque chose d'un coup de prosaïque, le détail auquel on ne réfléchit pas, et dont tout d'un coup on perçoit l'extraordinaire pertinence. Marcel Cohen.
On pourrait dire, alors je voudrais me racheter un petit peu à propos du roman, je voudrais pas dire
que je suis
l'ennemi acharné des romanciers, pas du tout, non. Et d'ailleurs, bien des grands romanciers du 19e siècle ont travaillé avec un souci du détail extrême, et Flaubert écrivant Salammbô est sans doute le seul à avoir découvert que Hannibal utilisait autant d'éléphants africains que d'éléphants asiatiques. Et pour cela, il fallait, sur les monnaies carthaginoises, observer la forme de l'oreille. C'est le seul élément qui permette de faire une différence claire entre un éléphant d'Asie et un éléphant d'Afrique. Donc le détail et le roman ne sont pas du tout antagonistes.
Alors d'ailleurs, vous référez aux éléphants. Alors je voudrais signaler à nos auditeurs que vous avez écrit une très belle préface à un très beau livre, Tombeau de l'éléphant d'Asie, de Gérard Busquet et de Jean-Marie Javron. Et c'est extraordinaire d'ailleurs parce que vous étonnez de cette intimité contre nature que vous dites au nombre des plus folles ambitions de l'humanité, au même titre que celle de s'élever dans les airs ou d'explorer le fond des mers, l'intimité entre l'homme et cet animal immense et qui peut apparaître monstrueux. Quel éléphant ? Comment imaginer les trésors de ruse, de patience, d'intelligence et de courage qu'il avait fallu pour venir à bout de l'effroi face à un animal aussi monstrueux ? Un animal dont, justement, on écrit le tombeau parce que il est malheureusement en voie de disparition. Et j'ajoute que la question animale est très très présente dans vos différents livres. C'est un sujet qui vous touche. Ça fait partie aussi des leitmotifs de votre œuvre, Marcel Cohen.
Oui, c'est clair. J'ai eu la chance de voir de près les éléphants à l'âge de 20 ans, parce que je suis parti en autostop vers l'Inde. J'ai fait un voyage d'un an et je suis arrivé dans un camp de capture d'éléphants sauvages en Assam. J'ai donc vu le dressage des éléphants, j'ai vu cette complicité extraordinaire qui pouvait naître entre l'homme et l'éléphant. Mais pour parler des animaux en général, je voudrais raconter une anecdote qui n'est qu'un petit détail, mais qui pour moi a été déterminant. J'ai en grande partie été élevé par un oncle maternel que je n'ai jamais réussi à beaucoup aimer, malgré ses très grandes qualités. Or, une année, nous avons passé des vacances ensemble et nous avons trouvé dans le petit jardin de la maison que nous louions une poule. On n'a pas réussi à savoir à qui appartenait cette poule. Nous l'avons donc nourrie, nous lui avons même fait une petite cabane. J'étais enfant, j'avais peut-être une dizaine d'années ou une douzaine d'années. Et il était convenu qu'avant de rentrer à Paris, au bout d'un mois, on tuerait la poule, on la mangerait. Or, cet oncle que je n'aimais pas beaucoup s'est révélé absolument incapable de tuer la poule. Et au dernier moment, j'étais terrorisé à l'idée qu'un jour il allait tuer cette poule. Il l'a pris sous le bras et il est allé l'offrir, la veille de notre départ, il est allé l'offrir à un voisin. J'ai toujours eu énormément de respect pour cet oncle. Voilà, j'ai trouvé ce détail extrêmement révélateur et beau et grand, même si grand veut dire quelque chose dans la circonstance.
Alors, pour en rester sur cette question, si vous me permettez tous les deux, je voudrais lire un autre texte tiré de Fait 3 et qui m'a absolument bouleversé. En 1935, employé à Salamanque dans un élevage de taureaux de combat, Isidoro Alvarez avait l'habitude de s'approcher à cheval du taureau Civilon dans les pâturages et de lui offrir des branches de chêne avec leurs glands. Un jour, il se hasarda à descendre de cheval. Quelques semaines plus tard, Isidoro en était à caresser Civilon sous le menton. Tout cela paraissait si invraisemblable à un public averti que l'histoire fit le tour de l'Espagne. En 1936, Civilon est la vedette d'une corrida à Barcelone. Les arènes sont pleines. Tout le monde veut savoir si le taureau sauvage a perdu sa bravoure et si Isidoro a donc réussi l'impossible, apprivoiser un taureau de combat. Or, à peine le torero Luis Gomez venait-il d'exécuter quelques Véroniques à la cape que le taureau se rua sur le cheval du picador et en reçut deux piques. La démonstration était suffisante, le public demanda et obtint la grâce de Civilon. Le plus extraordinaire restait à venir. Le bouvier Isidoro aurait-il autant de courage que le taureau? L'impresario de la course lui proposa 2000 pesetas s'il acceptait de descendre dans l'arène pour aller une fois encore au-devant de Civilon. Affronter Civilon seul à seul dans la campagne, avec la possibilité de s'enfuir à cheval si le taureau se faisait menaçant, était une chose. Dans une arène où il ne se sentait pas en sécurité, sans cape ni muleta pour s'en protéger, et alors que l'animal venait de recevoir deux piques, c'était une autre affaire. Mais le bouvier avait besoin d'argent. La peur au ventre, il sauta la barrera, avec pour seule arme une poignée de foin qu'il tendit au taureau. Dès qu'il eut reconnu la voix d'Isidoro, loin de charger, l'animal vint se frotter contre lui comme un gros chien. Note le critique taurin français Claude Poplin. Ému, l'éleveur racheta son taureau. Malheureusement, la guerre civile venait d'éclater et Civilon fut abattu à coups de fusil par des miliciens dans les pâturages. Son extrême noblesse l'avait sauvé, conclut Poplin, mais son poids de viande le perdit. Je trouve ce texte absolument admirable. Et d'ailleurs, il a quelque chose d'extraordinaire parce que il peut presque réconcilier les amoureux de la corrida et les militants du crack. Je ne sais pas si on peut envisager une telle réconciliation, mais on peut être ému, quel que soit le rapport qu'on entretient avec la corrida. Où l'avez-vous trouvé ce texte extraordinaire?
Je crois l'avoir trouvé chez Claude Poplin. Grand critique français, le plus grand critique français, je crois, concernant la corrida.
André Dusselier, vous n'avez plus rien à nous dire aussi,
Oui, il y a tant de choses que je pourrais dire. Mais en fait, on n'a pas envie d'opposer les genres, puisqu'on parlait beaucoup de romans, et puis voilà, de la manière d'écrire de Marcel Cohen. C'est comme si on faisait, comment dire, une comparaison entre le documentaire, presque, et puis l'œuvre de fiction au cinéma. Voilà. Quoi. Et c'est vrai que le documentaire peut avoir aussi sa force d'émotion, parce que la réalité est tellement captivante. Voilà, je crois même qu'on est établi, on fait des séries, là, aujourd'hui, à partir de réalité, et qu'on en fait aussi des fictions. Enfin bon, voilà, c'est des genres qu'on n'a pas envie d'opposer.
Non, vous avez raison. D'ailleurs, vous dites que vous avez choisi, vous, plutôt que le roman, le document. Vous le dites, je crois, dans votre entretien très intéressant avec Jacques Henric, publié dans Art Presse. Vous dites aussi qu'il y a deux sortes d'écrivains, les myopes et les presbytes, et vous appartenez, en effet, à la première catégorie. Mais en effet, vous faites un usage très poétique du document. Poétique, alors même que, justement, poétique par le dépouillement. Parce que vous le livrez brut, sauf qu'il faut un énorme travail d'écriture pour arriver à cette simplicité, Marcel Cohen.
Alors, poétique, je ne peux pas dire ça. En tout cas, ce serait très, très prétentieux. Mais j'aimerais, j'aimerais que ce soit poétique, oui. Bon, je ne sais pas si je peux dire plus. Et vous savez, les écrivains ne sont pas tout à fait qualifiés pour parler de leurs livres. Les livres ne sont jamais qu'une proposition de sens. Et comme nous le disions tout à l'heure, c'est le lecteur qui vraiment écrit et referme le livre, en tout cas.
Je ne vais pas refermer le livre. Je vais les lire et les relire. Mais l'émission se termine. Et je voudrais livrer une dernière anecdote sur ce que nous essayons de savoir alors que jamais nous ne serons. Le cinéaste Claude Lanzmann, notant dans son film sur le camp de Sobibor, c'est une des formes de cruauté et de perversité que vous dénombrez, il note donc un troupeau de plusieurs centaines d'oies accueillait les déportés à leur descente des wagons. Les cris des palmipèdes avaient pour unique fonction de couvrir ceux des déportés lorsqu'on séparait les enfants de leur mère et les femmes de leur mari à quelques dizaines de mètres de là. En créant un mouvement de panique sur le quai, les cris des déportés n'auraient fait qu'entraver le bon déroulement des opérations. Voilà, l'émission se termine. Je voudrais rappeler les titres des livres dont nous avons lu des extraits. Détail, chez Gallimard, et ainsi que Fait 2 et Fait 3, chez Gallimard également. Et ce recueil de citations, Autoportrait en lecteur, chez Éric Pesty. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Y a-t-il une loi naturelle ?» Mon invité sera Pierre Manant. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Claire Levasseur, dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.